non è allora il anno non è un Oui.
Oh, monsieur de la Rue. Monsieur Bélévy. Thierry Gerbelouch. Oui, Thierry.
Thierry, je crois que ton micro fait beaucoup de bruit. Ouais, si tu parles pas, si tu peux le couper.
Non, je ne parle pas.
Si tu peux le couper, s'il te plaît, je crois que tu failles ton gueule. J'ai pas un petit sifflet.
Qui ronfle dedans. Ça, c'est pas le micro.
Ça, c'est pour monsieur Kahn.
Il ne pourrait plus entendre des bêtises.
Oui, alors, on est là. Attends, dans l'anglais, où est-ce qu'on est? Au même endroit, vous diriez? Alors, le 20. Bonsoir. Voilà. On est raf en achenak, enfin en araméen là, mais l'orbite avant de Yaakov. Ah, c'est parce que dans la traduction, il y a toute une partie qui n'existe pas. C'est ça? Vous l'avez en traduction, le même texte? Je cherchais pour vous dire où c'était, mais j'ai l'impression que...
Quoi, il y a quelque chose qui a sauté, là?
Non, mais je sais. Vous l'avez?
Non, je sais pas où je
peux en aller. Je sais où on est, c'est comme l'a dit Herschel, on est à... L'Oibita Ben Beyakov, c'est-à-dire quatre lignes avant la fin, je crois, de...
Oui.
De Taf Tzadik Chet, c'est-à-dire au milieu du vin. Mais je ne sais pas vraiment. Ah ben si, c'est là, ouais, c'est ça. Ah si, c'est là. Anatote. Ah oh, c'est ça, voilà. Oui, c'est 813, à peu près au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page. Lohibit Aven Beyakov, il n'a pas observé de faute chez Yaakov. Le habit, c'est regarder avec insistance, observer. Vous l'avez? Amar Bilam, Bilam a dit, Eno mistakel ba'averot shebiyadam. Hakadosh Baruch Hu ne regarde pas les fautes des Bnei Israël. Il ne regarde en réalité. Il ne regarde que ce dont ils ont à se glorifier, ce dont ils peuvent s'enorgueillir. Gaava, Geout, c'est Gaava, ce dont ils peuvent s'enorgueillir. Hashem Elokav Imo, Hashem, son Dieu, est avec lui, est avec Israël. Utruat Melech Bo, et la sonnerie de chauffard du roi est parmi eux. C'est eux qui sonnent c'est eux qui sont les gens proches du roi et qui sonnent, qui accompagnent le roi. À Martali.
Pourquoi c'est que pour Israël? Pourquoi ils ne pourraient pas faire la même chose pour les non-juifs?
Ça, c'est ce que dit Bilam, n'est-ce pas? Ça, c'est Bilam qui dit, il dit à il dit à Balak, il lui dit, Amartali lechana arali, tu m'as dit, va s'il te plaît, maudis-les, maudis-moi Yaakov. Et il explique avec ce qu'il vient de dire, pourquoi c'est impossible ce que tu me demandes. Pardès.
J'ai pas compris c'est quoi
ce dont ils ont, ce dont les Bnei Israël ont à s'enorgueillir, c'est parce qu'ils ont fait de bien. Hachem ne regarde que le bien. D'Ebné Israël.
Alors, si les Israël s'enorgueillissent eux de quelque chose de bien qu'ils ont fait, c'est là-dessus qu'Hachem regarde.
Oui, il regarde ces choses bien. C'est une façon de dire, il ne regarde que le bien.
Et à ce moment-là, ils scrutent avec.
Et ça, ils regardent et ils valorisent le bien qu'ils ont fait. La vérité, c'est que.
Et à ce moment-là, il est frappé là-dessus.
Non, mais là, il parle d'Israël. Bilam est en train de démontrer à Balak, je ne peux pas faire ce que tu m'as demandé. Si vous voulez, on revient tout de suite à ce que tu demandes. Juste, regardez comment il élabore son truc. Il dit, Pardes, chez Eshlo Shomer. lorsqu'on a un verger, et que ce verger, il a un gardien. Le voleur ne peut rien faire. Il y a un gardien. Yashan lo, si le gardien va dormir, Zaganav nichnas. Alors seulement le voleur peut entrer. Seulement Veilou, mais ici, le gardien c'est Hachem. Lo yanum velo ishan shomer Israël. Il ne s'endort pas, il ne somnole pas et il ne dort pas le gardien d'Israël. Donc Israël c'est un verger avec un gardien qui ne dort jamais. Et donc le ganav il ne peut jamais entrer. Ech ani yachol le'azikan. Comment pourrais-je leur faire du mal? Hachem Elokav imo. Hachem son Dieu est avec lui. Alors je m'arrête ici et je reviens sur ce qu'il a dit là. N'est-ce pas? Il dit Lohibit aven be'yaakov. Hachem ne regarde pas les fautes des bnei Israël. Les bnei Israël font des fautes et Hachem regarde ailleurs. C'est-à-dire, en fait, il n'en tient pas compte. Il ne s'occupe que de ce qu'ils ont bien fait. Alors, ce que les bnei Israël font, on en fait tout un plat. Et donc, dit-il, je ne peux donc pas faire ce que tu m'as demandé. Parce qu'Hachem, moi j'ai besoin de pouvoir trouver une faille dans le clan d'Israël. Si j'ai la faille, je vais faire tomber la foudre dessus. Il faut que je trouve la faille chez les bnei Israël. Mais il faut que... Moi je dois la trouver et je dois obtenir qu'Hachem la regarde en quelque sorte. Hachem, systématiquement, il ne regarde pas la faille. J'ai aucune chance. Ensuite, il donne un autre machal. Il dit, les bnei Israël, c'est un verger. Avec un gardien qui ne dort jamais. Or, un verger qui a un gardien, on ne peut abîmer le verger, on peut venir voler les fruits, que quand le gardien n'est pas là, quoi. Or, il est toujours là. Parce qu'il ne va pas dormir. Lo yanum velo yishan shomer Israël. Le gardien d'Israël ne dort pas. Donc je ne peux rien faire. En fait, cette idée de qu'il ne regarde pas les fautes des bnei Israël et il ne regarde que ce qu'Israël fait de bien, en fait, ça fait penser à la chose suivante. Vous savez, le mal, dans les théories des kabbalistes, comme ça, à un certain niveau, le mal n'existe pas. Si vous voulez, parce que le mal, c'est au service de... Le mal, c'est envoyé par Hachem. Donc, il y a un moment où le mal n'est pas vu comme le mal. C'est simplement, il fait partie des serviteurs d'Hachem. Il est envoyé dans le monde pour poser des problèmes à Israël, pour qu'Israël vainque ses problèmes et acquiert des mérites. Et donc, dans l'absolu, le mal n'en est pas. Alors, c'est marqué que quand les quatre qui sont entrés dans le Pardès, dont Rabbi Akiva, quand ils sont arrivés en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu un certain ange qui s'appelle Métatron, qui est en fait celui qui gouverne le monde au nom d'Hachem. Il est chargé de la gouvernance du monde. Et ils ont vu que Métatron était assis. Alors, on pense que quand on est assis quelque part, c'est qu'on est de plein pied là. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous, quand vous voulez le mettre à l'aise, vous lui dites, asseyez-vous. Et a priori, il ne s'assied pas avant que vous lui donniez la permission. Vous entrez chez quelqu'un, vous ne vous asseyez pas. Vous attendez qu'on... Enfin, c'est comme ça qu'on m'a appris dans ma jeunesse. Enfin, aujourd'hui, c'était plus la mode, mais... Il y a longtemps, comme ça, c'était un jour la mode. Donc, on... Donc quand ils l'ont vu assis, ça veut dire qu'il était de droit ici, de plein pied. Or, il était dans la résidence d'Hachem, en quelque sorte. Donc ils se sont dit, mais c'est ce qu'Elisha ben Abouya s'est dit à faire. Il s'est dit, il y a donc deux pouvoirs. Parce qu'il y a Hachem, ça je sais. Et puis il y a ce pouvoir-là qui est assis. Il c'est une divinité, quoi. Il est de plein pied aussi. Et il ne s'en est pas remis. Parce que bon, il est venu avec l'idée que Hachem est Echad, etc. Il a vu de ses yeux, il a vu le contraire. Il a interprété ce qu'il a vu comme disant le contraire. Le problème de l'interprétation à ce niveau-là, c'était justement ce problème-là que Rabbi Akiva, contre ce problème-là que Rabbi Akiva les avait mis en garde. Rabbi Akiva a dit aux trois autres, il leur a dit, vous allez arriver là-haut et vous allez voir de l'eau. Ne dites pas que c'est de l'eau, parce que c'en est pas, c'est pas de l'eau. Alors, les Farshim disent que c'est une espèce de marbre qui, quand vous marchez, vous avez l'impression que vous êtes au bord de l'eau, quoi, que l'eau coule. Les veines du marbre sont telles que vous avez l'impression d'avoir un cours d'eau, quoi, quand vous vous déplacez. Mais c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, vous allez arriver à un niveau où les sens vont vous trahir. Les sens ne jouent plus. Et donc, ce qui est important, il leur a dit, bien sûr, vous allez voir de l'eau, mais ne le dites pas, parce que c'est un shaker. Et à cet endroit-là, un shaker, même si c'est une mauvaise compréhension, etc., ça ne pardonne pas. Et ça n'a pas pardonné, parce que lui, il a dit, quand il a vu ça, il a dit, mais il y a un dualisme alors. Et finalement, il ne s'en est jamais remis. Il l'a dit, et ça l'a poursuivi, il ne s'en est pas remis, c'est à faire. Maintenant, de ce Métatron, on dit, c'est écrit qu'il est assis et il écrit les mérites d'Israël. Et comme il est celui qui gouverne le monde, la question se pose, mais il n'écrit que les mérites? Comment on peut gouverner en tenant compte que des mérites d'Israël? Alors, en vérité, là où il est, le mal, en tant que tel, n'apparaît pas. Donc il n'y a pas de mal. Donc même que les fautes que les Bnei Israël ont faites, là où on écrit, là où on prend en compte les choses, le mal, en tant que tel, n'existe pas. Mais il y a quand même une trace du mal. Le mal est là sous forme d'absence de bien. Si vous voulez une représentation... Si vous représentez, vous avez un axe horizontal, et si vous représentez le bien comme une courbe qui est au-dessus de l'axe, et quand on est négatif, qu'on n'est pas bien, il est en bas. Alors imaginez qu'on tient compte que vous avez une diode, quoi, qui ne garde que la partie qui est au-dessus, et qui met à zéro, au lieu d'avoir du moins 3, moins 15, moins 6, etc., c'est zéro. Alors il y a une trace du mal, mais il n'apparaît pas comme mal. Le mal n'existe pas, il n'y a rien dans le négatif. Mais il y a une absence de bien pendant ce temps-là. Pendant le temps que tu as fait du mal, ce qui est important, c'est que tu n'as pas fait de bien pendant ce temps-là. Et c'est ce que le Gaon de Vilna dit. Il dit qu'à la fin des temps, on doit donner din vecheshbon. C'est une expression aujourd'hui, même en hébreu moderne, un doch, c'est din vecheshbon, din et cheshbon. Le din, ça veut dire on va te juger sur ce que tu as fait. Mais il y a aussi un cheshbon, il y a aussi un compte. Quel compte? Il y a le compte du bien que tu n'as pas fait pendant que tu faisais le mal. Et au fond, en haut, c'est ça l'essentiel. C'est le bien que je n'ai pas fait pendant ce temps-là. J'ai passé du temps. J'avais une heure où j'ai fait des bêtises. Ok, la bêtise, c'est pas important. Mais pendant ce temps-là, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. À la limite, c'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas... Quelqu'un doit préparer un examen. Et il perd son temps. Il ne fait rien de mal, mais il a perdu son temps. Il a fait zéro de préparation pendant ce temps-là. D'un certain point de vue, ça vient exactement la même chose que celui qui a fait des bêtises pendant ce temps-là. Par rapport à la préparation de l'examen, c'est la même chose. Et donc c'est ça l'idée. Ce qu'il dit, c'est vrai. Loïmit Aven Be Yaakov, Akadosh ne regarde pas les fautes de Yaakov, les fautes d'Israël. Bon. Alors pourquoi c'est seulement à la question que vous avez posée, mais pourquoi on s'occupe d'Israël? Parce qu'aujourd'hui, depuis Avraham Avinu, si on peut parler comme ça, ce qui est important, c'est ce que font les Bnei Israël. Ça a un impact sur le monde, direct. Ce que font les fautes des Goïm, ça a un impact, mais indirectement, dans la mesure où ça empêche Israël de faire ce qu'il a à faire, par exemple, ce qui est beaucoup plus important que le mal absolument fait. Ça fait une ambiance générale. Étant donné qu'il y a un Rambam qui dit qu'on n'échappe pas au milieu ambiant. Et donc, le milieu ambiant, les goïms vont fabriquer un milieu ambiant, une certaine ambiance dans le monde. Il y a aujourd'hui une ambiance où tout est permis, par exemple. Ouais, c'est le laxisme général. Alors bien sûr, les gens, comme on dit, les gens qui respectent la Torah ne tombent pas dans ce laxisme général à ce niveau-là. Mais il y a un impact. Il y a des choses qui, tout à coup, par le biais du langage, par le biais de ceci ou de cela, ou de la façon de... Il y a déjà des années, quelqu'un m'avait dit, qui revenait à ce moment-là des États-Unis, il m'a dit, il y a un nouveau problème maintenant, c'est que les froums, ils veulent tout en cachère, mais ils veulent tout. Ils veulent tout ce que les autres ont, mais en cachère. Si vous voulez, la caricature, c'est... Bon, ça, c'est pas dans le domaine de l'interdit. La caricature, c'est Pessah. D'accord ? Ça dure 8 jours, et il faut faire des fausses pâtes, il faut faire des faux machins. Tout doit exister. En cachant le Pessah, bien sûr. Pendant 8 jours, vous imaginez ? Pendant 8 jours, c'est impossible de vivre. Comment survivre pendant 8 jours ? Si on n'a pas toutes ces saletés, là, ce junk food. Ouais. Mais on a besoin de ce junk food aussi. Mais cachère le Pessah. Et ça, c'est dans tous les domaines. On veut la même chose, mais en cachère. À la limite, on veut des vêtements qui sont pas convenables, mais il faut pas qu'il y ait de problème de chatnez. Mais pas de chatnez, mais. Il faut la même chose. Et c'est ça, j'ai l'impression, ça, c'est l'influence du milieu. À partir du moment où on est dans un monde où on veut tout, et les gens, ils le veulent comme les enfants, tout de suite, comme s'ils n'avaient absolument aucune patience, aucune idée de que les choses, elles se construisent, que, au contraire, la simcha, elle est quand on a fait advenir les choses. On dit au contraire que les gens qui ont tout, ils se suicident parce qu'il n'y a pas de... C'était la parasha la semaine précédente. Désirer du désir. La manne, c'était le grand problème de la manne, c'est que ça ne te laisse pas désirer. Puisqu'au moment où tu désires, tu l'as. Il y a un côté insupportable. À tout avoir, il suffit de... C'est comme quelqu'un qui a... Comme aujourd'hui, par exemple, les chaussures ne sont pas illimitées. Si je ne peux pas envoyer un nombre de SMS illimité, si je ne peux pas envoyer des téléphones de façon illimitée, on aurait pu dire 100 000, je ne sais pas, non, illimité. C'est tout, c'est illimité. Même si ce n'est peut-être pas vrai que c'est illimité, mais peu importe, ça leur s'appelait illimité. On est dans l'illimité, il n'y a pas de limite. Mais ça, alors, les goïms qui fabriquent un monde comme celui-là, ils ne sont probablement pas sanctionnés obligatoirement pour les fautes. S'ils ont fait des fautes, des schémas de Ménor, ils vont devoir payer. Mais même s'ils n'en ont pas fait, mais qu'ils ont créé un monde avec une telle ambiance, et que ça a un impact sur les Bnei Israël, ben, les Bnei Israël sont punis pour ce qu'ils ont fait de mal, mais eux aussi sont punis pour avoir fabriqué un environnement qui empêche de vivre. Quoi. Et l'environnement, ça peut être qu'on les tue, on les empêche de faire les mitzvot, point barre. Tu fais la mitzvah, on te tue. Ou alors non, c'est encore beaucoup plus subtil. Tu peux faire la mitzvah, mais il faut la faire comme ci, ou il faut la faire comme ça. Ça entre à l'intérieur, ça pourrit l'intérieur. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'il faut expliquer le fait qu'il n'écrit que les mérites du clan Israël. Mais ce n'est pas que les ça n'est pas que les autres n'ont pas de mérite, etc. Ils ont, au contraire, s'ils fabriquent un environnement porteur, on voit très bien à la fin des temps, dans la fameuse Gemara d'Avodah Zarah où les peuples viennent pour... Hachem dit que tout celui qui s'est occupé de Torah vienne et ils prennent sa part. Ils viennent et ils disent, ben nous on a construit des ponts, on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'or et d'argent en circulation, on a fait des guerres pour amener la civilisation, etc. On a créé des marchés, des foires, etc. dont les Bnei Israël ont profité. Ils disent pas, c'est bien. Les Bnei Israël ont profité. Donc nous sommes associés, peut-être de très loin, mais à l'étude de la Torah des Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'Hachem dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, en fait, ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous. Et la Torah, ce n'est pas que vous ne l'avez pas fait pour Israël. Il ne faut pas rêver s'ils n'allaient pas le faire pour Israël. Mais s'il y avait eu un peu de générosité, s'ils l'avaient fait les uns pour les autres, il y aurait eu de la générosité dans leur démarche. Alors, ça a à voir avec la Torah. Si il n'y a aucune générosité dans la démarche, alors même si les gens de Torah en bénéficient, les gens qui, en Allemagne aujourd'hui, roulent sur les routes que Hitler a construites et qui vont, grâce à ces autoroutes, ils vont pouvoir aller plus vite, à la Tfila ou plus vite... objectivement, ils en bénéficient. Mais on sait bien que ça a été construit sans aucune générosité pour personne. Enfin, pour les Juifs, on n'en parle pas. Mais pour personne. Si les Romains ou les Perses, là où ils ont fait leur conquête, avaient eu le souci du bien-être, ils avaient fait des choses pour les autres, Hachem leur dit, vous n'avez fait que pour vous. Que vous, pour vos, votre plaisir, vous avez fait des foires pour y installer des prostituées, vous avez fait des ponts pour les péages. Vous faites un pont, et le pont c'est pour relier des gens entre eux. Vous, il n'y avait absolument aucun intérêt, ça vous était complètement égal. Au contraire, vous avez enlevé la possibilité de traverser à gué, etc., ou avec un bac, etc., vous avez mis un pont, on est obligé de passer par le pont, et vous prenez les péages. Donc en vérité, c'est pas du tout pour que les gens... Et c'est ça qui leur est reproché. Le manque de générosité qui fait que si une Torah n'est pas une Torah de chesed, la Torah doit être une Torah de chesed, chez les Bnei Israël aussi. Chazal disent qu'une Torah qui n'est pas enseignée, c'est une Torah à laquelle il manque du chesed, il manque de la générosité, et c'est pas de la Torah. Tu peux être bourré de Torah, mais si tu la donnes pas, si tu ne l'enseignes pas, tu te la gardes pour toi, c'est manque de générosité, c'est pas de la Torah.
Je suis très étonné qu'on puisse se retrouver dans une situation où les goïms viennent essayer de défendre que, oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela pour la Torah. C'est pour moi un non-sens. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la Torah?
Non, ce que vous ne comprenez pas ici, c'est que, vous saviez, il y avait un moment au Parti communiste, il y avait les compagnons de route. Qui n'étaient pas dans le parti. Mais c'est ceux qui faisaient un bout de chemin avec. Il y avait ceux, il y avait des idiots. Bon. C'est-à-dire, vous avez des situations dans lesquelles vous êtes objectivement, peut-être de très loin, mais associé à ça. Ils ne l'ont pas fait pour la Torah. Mais la Torah, c'est quelque chose qui est tellement, le srar de la Torah, le srar de la Torah est tellement énorme, que même si on est très très loin dans la chaîne, qui a mené à un kiyum Torah, on a un mérite.
Ce que je veux dire, c'est que j'ai peur que quand on va quelque part les accuser, en définitive, d'avoir rien fait pour la Torah, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur dit.
Et vous, vous ne pouvez pas leur... C'est pas que... Parce qu'ils comprennent comme vous. Faire pour la Torah, ça voudrait dire vous allez construire un Beth Knesset ou un Beth Midrash, etc. Oui, ou ne pas faire de mal aux Juifs directement. Non, mais on parle. Donc, en fait, ce qu'ils disent, ils ont compris. On est à la fin des temps. Donc, à la fin des temps, ils ont compris qu'en vérité, tout tournait autour d'Israël. Donc, ils disent, si tout tourne autour d'Israël, nous, on est quelque part dans la chaîne qui a mené à l'étude de la Torah, quelque part, peut-être même très très loin dans la chaîne. Mais le salaire étant tellement énorme, qu'il y en a aussi pour celui qui est très loin. Et ce qu'Hachem dit, vous n'avez rien, parce qu'il n'y a absolument aucune générosité. Le problème de la générosité, c'est, le chesed, c'est Abraham, la Torah, elle ne commence pas sans Abraham. Sans générosité. C'est comme ça dans les relations interhumaines. Quelqu'un qui est égoïste, vous ne pouvez rien construire avec lui. Tous les autres défauts, on peut se débrouiller. Mais quelqu'un qui ne pense qu'à soi, on ne peut pas construire avec lui. Puisque par définition, il ne donne rien, il prend.
Est-ce que vous voulez dire ici que les nations, n'auraient pas cette générosité, même pour eux ou dans leur cœur?
Oui, ils n'ont pas pour les autres. S'il s'agit d'un autre.
Comment on peut dire pour les autres, c'est-à-dire pour les Juifs?
Pour les autres peuples, non. Hein, les Romains, pour les Gaulois. Lisez Astérix, vous verrez bien.
Non, on ne peut pas dire, par contre, on ne peut pas généraliser en disant que les individus,
il y a des individus qui sont capables de générosité. On parle des peuples en tant que tels et on parle de la civilisation en tant que telle. C'est tourné vraiment sur soi.
Une collectivité qui organise sur un plan national, de faire des caisses pour
Mais oui, mais après, il y a ceux qui viennent tout de suite, ils disent oui, mais les pas les étrangers quand même. Mais ça, il y en a partout, des gens qui arrivent à se faire... Il y a des gens qui se font soigner sans argent, et il faut que ce soit des étrangers. Parce que, bon, alors, il y en a, parce que... C'est marqué « Chesed Lohim Khatat », c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'ils sont obligés de faire pour la galerie, ou des choses comme ça. Si Hachem dit à la fin du temps, ce que vous avez fait, c'est uniquement pour vous, c'est ça le Hémet.
Pour l'ordre social.
Quand tu fais pour que l'autre, il te renvoie l'ascenseur, tu n'as pas fait de recette, ça c'est un deal. Si c'est pour avoir une réputation ou un truc comme ça, il faut savoir. Moi je ne vais pas maintenant discuter sur ce point-là parce que je n'en sais rien, mais ce que l'Agmara veut dire ici, c'est que c'est Hachem qui leur dit. Donc ça veut dire qu'en vérité, Hachem dit, en vérité, quand on regarde de plus près, ce que vous l'avez fait uniquement pour vous. Il n'y avait pas suffisamment de générosité dans ce que vous dites avoir fait, pour que ça puisse, d'une quelconque manière, se rattacher à la chaîne qui mène à la Torah. Donc il n'y a pas de salaire du tout pour ça.
Et si on pose la question, si on peut la poser, si on peut dire quelque chose là-dessus, savoir qu'est-ce que apporte, si on faisait un bilan, là, qu'est-ce que, par exemple, le peuple juif a fait pour l'humanité?
Pour l'humanité, pas mal de choses quand même.
Oui, non, mais d'accord. Là, vous parlez d'individus qui ont éclairé, vous parlez de la Torah.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler des 10 commandements ou des choses comme ça, ou la notion de...
Oui, mais si on peut néanmoins quand même poser la question, puisque de toute manière, elle est si peu, en définitive, appréciée.
Bah, ça c'est autre chose, on ne peut pas obliger les gens à apprécier les bonnes choses qu'on leur donne. Comme on dit, on peut donner des perles aux cochons, mais... On met ça dans le domaine public, maintenant tu ne veux pas le prendre, on le prend.
Je veux dire que le peu de réussite sur le plan de l'application, même des 10 commandements...
on n'a pas réussi, ils n'ont pas voulu. En fait, la vérité, c'est une mauvaise réponse que j'ai donnée, parce que les 10 commandements, c'est pas du tout que eux doivent respecter les 10 commandements, ça les concerne pas, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est de la Torah, ça concerne que les bénis Israël. Eux, ils ont chez la mitzvah des bénis noirs, il n'y a pas les 10 commandements dedans. D'ailleurs, ils ont fabriqué leur propre version des 10 commandements, n'est-ce pas? Mais à part ça, ils ne sont pas du tout restreints aux 10 commandements. Les 10 commandements, ça n'existe que pour les bénis Israël. C'est dans la Torah, c'est comme les 613 mitzvot. C'est des 613 mitzvot. Il n'y a pas d'obligation pour les goyim de respecter les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a le tu ne tueras pas, mais le tu ne tueras pas des 10 commandements, ça n'a rien à voir avec le tu ne tueras pas qui s'impose au goyim dans les Shevah Mitzvot des Bnei Noach.
Que le clan Israël était amené à faire dans le cadre du Chumash, on les voit où?
Mais le problème, c'est comme ça. Les Bnei Israël, ils ne sont pas en. Eux, leur travail, c'est dans la Torah. Et eux, c'est l'essentiel. Ce qu'on leur demande, eux, les Bnei Israël, ils sont jugés sur la façon dont ils traitent la Torah, la façon dont ils répandent la Torah. Et la Torah, ils ont l'obligation de la donner, de la développer, en tant que Torah Tachem. Maintenant, ils ont aussi probablement une obligation d'enseigner les Shevah Mitzvot des Bnei Noach. Alors, elles sont enseignées, mais ils ne veulent pas, c'est écrit dans la Gemara. Ils n'ont pas voulu accepter, c'est ce qu'on peut faire. Les Bnei Israël, ils ne sont pas en charge. Ils ne doivent pas se rattacher à la Torah par le Chesed. Les autres, ils ne font pas de Torah, comme disait Ilan. Ils n'ont rien à voir avec la Torah. Pour se rattacher à la Torah, tant soit peu, il faut qu'ils fassent des gestes de chesed pour que ce qu'ils font et qui est utile au Bnei Israël soit réputé utile à la Torah, au développement de la Torah. Le fait que Bnei Israël en ait bénéficié, ça ne veut pas encore dire qu'eux peuvent se targuer de « nous avons aidé les Bnei Israël à faire quelque chose ». Parce que je voulais d'abord pas répondre au sens de... parce que la question, elle n'a pas lieu d'être, en vérité. C'est pas qu'on n'a pas d'obligation, il y a d'obligation, mais la raison pour laquelle on a fait appel au chesed, c'est pas que le chesed en lui-même, ici, qu'on est jugé que sur le chesed, mais pour se rattacher à la Torah, quand on n'a pas de Torah, la seule chose qui rattache à la Torah sans Torah, c'est le chesed. Oui.
Mais tout à l'heure, vous disiez donc qu'il ne peut pas y avoir de chesed. Il n'y a pas de chesed des goyim.
Alors c'est ce que Hachem dit aux goyim à la fin des temps. Il leur dit en vérité, il n'y avait aucun chesed dans ce que vous avez fait. Parce que chesed, c'est un faire pour l'autre. Et l'autre...
D'accord. Ça, c'est ce qu'il disait, mais...
C'est Hachem qui le dit à la fin des temps.
Ah, donc maintenant.
Non, on n'est pas à la fin des temps.
Quoi. Non, mais je veux dire, donc ça s'applique à maintenant.
Ça veut dire que c'est comme ça, mais ce qui peut se trouver, c'est que nous, on ne voit peut-être pas dans quelle mesure ça n'est pas... C'est sans aucun chesed. Peut-être qu'il y a des choses qui nous leurrent, et nous, on a peut-être l'impression qu'il y a certaines choses qui sont faites par chesed, et que c'est Hachem qui dit à la fin des temps... ce que vous avez fait, parce que a priori quand tu lis la Gemara avant qu'Hachem leur coupe l'herbe sous les pieds, on a l'impression qu'ils ont des bons arguments.
Dans quelle mesure entendre et lire ça ne nous fait pas interpréter et lire?
Entendre, j'ai pas bien compris là, vas-y,
le haut-parleur. En quelle mesure entendre et lire ça ne nous fait pas interpréter et lire le possible recette d'Egoïm qu'on ne prendrait pas en compte parce qu'on lit avec cette grille de lecture-là. Que si on sait qu'à la fin des temps, Hachem dit qu'il n'y a pas de véritable précède, je ne peux pas être réceptif à quelconque précède.
Si, parce que moi je suis pas en position, regardez les juifs pendant un certain temps, ils étaient très reconnaissants à la Pologne. C'est avant que les Polonais montrent sont capables, où on disait Pauline, la Pologne ça se dit Pauline, ça veut dire passe la nuit ici. Pauline. Ça veut dire, parce que les rois, les Casimir, là, ceux-là, ils ont reçu les Bnei Israël à bras ouverts pendant de très nombreuses années. Et maintenant, l'obligation d'être reconnaissant aux Goïm pour ce qu'ils ont fait, ça c'est dans la Torah. N'oubliez pas qu'on doit traiter les Mitzrim, d'accord, de façon positive, parce qu'on a habité chez eux. Aïe, pendant des années, ils nous ont réduits en esclavage. Tu as habité chez eux, tu leur dois une reconnaissance. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est comme si on dit aujourd'hui, les Juifs ont une dette de reconnaissance à l'égard de l'Allemagne pour toutes les années où ils étaient bien en Allemagne. Et on ne tient pas compte de ce qui s'est passé après. De même qu'on ne tient pas compte de ce qui s'est passé en Égypte. Les années d'esclavage, on n'en tient pas compte. Dans l'obligation de... Parce que l'obligation, elle est née au moment où on était bien, et puis elle n'a jamais été abolie. Et donc quand on était bien en Allemagne, vous savez, il y a les gens, il y a une famille, je crois, Benveniste, qui ils ont pris le nom de... Il s'appelle Epstein aujourd'hui, enfin, depuis longtemps. Pourquoi? Parce que le duc d'Epstein, en Allemagne, leur a donné l'hospitalité, donc ils ont tous pris son nom. Celui qui a écrit le Torah Tmima, etc., d'autres grands poskim, qui s'appelle Epstein, c'est le duc d'Epstein qui a accordé l'hospitalité à leur famille, et pour le remercier, ils ont pris son nom. Mais c'est...
Donc sur le plan, en tout cas individuel, et parlons par un autre exemple, les justes, on appelle les justes, et qui sont d'ailleurs célébrés, en Israël, les Vachem, sauver, là c'est bien du chesed, même
oui,
parfois,
mais on ne dit pas du tout qu'à l'échelle individuelle ça n'existe pas.
Donc là, voilà, c'est
ça, et de toute manière, nous, même s'il y avait un peuple, il ne s'est pas trouvé beaucoup de peuples qui ont accepté les Juifs, hein, avant la guerre. On ne peut même pas dire lequel. Il y avait tous des nouveaux clauses pour exclure les Juifs. Alors, ce qu'ils font en Hongrie, il y avait ce Wallenberg, qui était l'ambassadeur du consul de Suède en Hongrie, à Budapest, qui a donné des visas, il a sauvé des centaines, des milliers de juifs, je crois. Ensuite, après la guerre, les Russes sont venus, ils l'ont embarqué, ils l'ont voulu tuer, ou quelque chose comme ça. Il y a une... Pardon ?
Des passeports Wallenberg.
Oui, bon, c'est des passeports Wallenberg. Et il y avait une statue de Wallenberg à Budapest, les fascistes d'aujourd'hui, ils ont débarrassé la statue. C'est-à-dire, ils ne supportent même pas que quelqu'un ait aidé les Juifs.
Et il y a un autre niveau aussi par rapport à ce que vous disiez, mais les penseurs Goldim eux-mêmes de la pensée politique, quoi, en gros de Hobbes jusqu'aux penseurs modernes, pour montrer que les sociétés contemporaines, enfin, elles sont toujours... La constitution politique et la pensée politique, ça n'a jamais été une question très saine. Ça a toujours été d'autres questions de voir comment une société pouvait se constituer. Donc, ils avaient fondé ça sur la figure du Léviathan. Eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas du tout aucune dimension très saine là-dedans.
Regardez, c'est Jean-Claude Miller.
Oui.
Il y a là qu'il y avait quand même des pensées universelles, après que ça a peut-être été dévoilé là-bas. Universel, ça veut bien dire qu'on va peut-être qu'après ça a été dévoyé, mais apporter la lumière à d'autres.
Donc, au départ, oui, mais bien sûr, la colonisation, c'était aussi pour amener le progrès.
Oui, avec nos yeux aujourd'hui, on dit ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a peut-être que déjà c'était pourri depuis le début, mais il y a des gens qui se sont battus, qui sont même morts parce qu'ils ont voulu faire la promotion de cette idée-là.
Il y a des gens
qui ont... Pax Romana aussi, c'était universel. Pardon. On est parti à fond là sur un début.
Donc, les États-Unis avec Israël.
Pardon ?
Les États-Unis avec Israël.
Ça, c'est une question de politique intérieure.
Ouais.
Ou extérieur.
C'est
ça qu'il ne faut pas se leurrer, que le jour où ça ne plaira pas aux États-Unis, ben ils changeront de...
Donner la citoyenneté aux Juifs, arrêter l'abolition de l'esclavage, reconnaître le même droit des Noirs que des Blancs aux États-Unis dans les années 50, c'est quand même des... dire que ce n'est pas du tout... dans ma vision peut-être très simple, c'est des actes de reconnaissance qu'on s'est trompé et
pourquoi ce serait du chesed, je veux dire, pourquoi les Noirs aux États-Unis ils n'auraient pas les mêmes droits que les Blancs?
Voilà.
Pourquoi c'est du chesed?
Pourquoi c'est
de la justice.
La justice, il veut dire.
C'est de la justice, c'est pas du chrétien.
Ah ouais, voilà, c'est pas la justice, c'est le chrétien, voilà, c'est vrai.
C'est pas la même chose, c'est de la justice. Et quand on donne les droits aux juifs, ils ont donné les droits à des juifs qui étaient dans les pays en question, ils étaient là depuis plus longtemps que les goyim eux-mêmes. Ils ont donné des droits. Oui, évidemment, on les a privés avant, après on leur a donné des droits. On donne des droits aux femmes aussi. Hein. C'est pas du chesed, c'est une espèce de, c'est la justice, c'est tout. Non, c'est pas du chesed. Où est le chesed? Le chesed, c'est... Il y a une dimension gratuite dans... Qu'est-ce qu'il y a? Rien de gratuit là-dedans. Évidemment, si tu prends pour toi toutes sortes de privilèges et après tu en distribues un petit peu, tu en rends un petit peu, alors c'est du chesed, ça. Donc je crois que ces arguments-là, ces dernières choses qui ont été citées, là, je ne suis pas impressionné, ça n'a rien à voir avec le chesed, à mon avis.
Je reconnais que je confonds chesed et justice. Mais le chesed, alors, peut-être que si vous pouvez m'aider, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire le chesed? Parce que avoir des choses, vous avez prononcé beaucoup de privilèges. Si le chesed, ça veut dire que j'ai tout ce gâteau, et maintenant je donne une partie du gâteau, est-ce que c'est ça le chesed? Qu'est-ce que c'est le chesed?
Par exemple, oui.
Bon, alors donc dans ce cas-là, j'ai des privilèges, je réduis.
Non, mais les privilèges, je les ai pas acquis, je les ai pas de droit. Je...
Bon, mais...
Non, quand, à la limite, ce que Hachem dit, construire des ponts, par exemple, c'est un bon exemple, oui. Pour construire des ponts. Ben c'est vrai que c'est du chesed. Tu permets à des populations. Toi, tu n'es pas là. Tu construis un pont entre la population A et la population B. Au milieu, il y a une rivière, tu construis un pont. Toi, tu es C. Ben c'est du chesed. C'est ton argent, tu l'investis là-dedans.
Mais ça n'existe pas.
Mais ça ne s'est jamais fait. Et quand ça s'est fait, en fait, ce qu'Hachem dit, c'était pour les péages.
Faire du protectionnisme, c'est bien, c'est pas bien. Bon, et de toute façon, l'argent pour faire le pont, d'où il vient cet argent?
Les gens,
on peut dire l'infrastructure, soit il y a une société qui est suffisamment riche, qui est prête collectivement à payer les impôts pour payer le pont, soit c'est un garant privé qui vient et qui finance le pont et qui dit « et maintenant je lève des péages dessus ».
Oui, mais quand c'est la société qui les installe, elle les installe parce qu'elle y voit son intérêt, elle l'installe quand elle s'installe ailleurs, il va toujours prendre des péages. Enfin, peut-être pas de façon directe, mais de façon indirecte. Que ce soit les impôts, que ce soit les taxes, ou je ne sais pas quoi, on va inventer un truc. C'est rarement à fond perdu, ou alors c'est pour la gloriole. C'est pour pouvoir dire à l'autre, nous on a fait ça, donc tu dois faire ça.
En fait, là vous parlez du cœur. Donc le cœur, je n'ai pas l'impression qu'il se passe beaucoup fonctionner ce genre de projet. Parce que lorsqu'il y a un projet, par exemple, on reprend l'histoire du pont, bah celui qui va le financer, il ne va pas le faire parce qu'il a du cœur.
Si c'est celui, d'abord il y a des gens qui font des choses comme ça.
Mais c'est rare.
Si tu parles des individus, je peux t'en donner des individus qui font des choses extraordinaires avec leur propre argent. Ça existe.
Oui.
Ils le font pour la gloriole ou pour pas, ou parce qu'ils ont, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils se font plaisir. Non, mais ça, c'est tout à fait particulier. On parle ici de démarches de peuple. Au nom de la civilisation perse ou la civilisation romaine, voilà ce qu'on a fait. Disons qu'on a fait ça.
C'est une évidence.
Pardon ?
C'est une évidence, j'ai pas même à discuter là-dessus. Je veux dire, c'est tellement évident que ça n'a pas été fait pour
eux, ils pensaient.
Là, on parle bien de chesed envers Israël.
Non, non, pas du tout.
Même de chesed entre eux.
Oui, on n'a pas rêvé qu'on ne va pas leur demander de faire du chesed pour Israël, on n'est pas fous. On leur demande de faire du chesed les uns avec les autres. Il y aurait une démarche de chesed. Tu ne veux pas faire pour les juifs, d'accord. Mais ça te qualifie pour que ce que tu as fait et dont les bénis Israël ont bénéficié à ton corps défendant, souvent, bon. Pour qu'on dise, ok, comme il y avait du chesed dans cette chose-là, et que les bnei, c'était pas pour les bnei Israël, mais les bnei Israël en ont profité, Alors on peut dire, bon, voilà, ça peut avoir un lien avec la Torah. Donc ça te qualifie pour avoir droit à ce à quoi on a droit quand on a participé à la Torah.
Quand on parle d'une collectivité, on pourrait toujours dire que la moindre chose... est-ce qu'on parle de chesed, par exemple, quand on parle de collectivité, je ne sais pas, une mairie, quand elle fait une bibliothèque municipale...
Non, mais elle ne fait pas. Mais la mairie, elle fait pour les gens qui sont là. Le chesed, c'est pour l'autre. Quand vous faites du chesed... Je ne veux pas dire que je fais du chesed avec mes enfants. C'est comme si je prends une poche et je mets dans l'autre. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils font du chesed avec leurs enfants. Ce n'est pas du chesed.
Non, c'est pas tout à fait. Si je continue dans l'exemple, la bibliothèque municipale, la piscine municipale, elle n'est pas municipale que pour les gens qui sont dans la municipalité. Moi, je peux jouir de la piscine de Joinville-le-Pont.
Ben oui, parce que, étant
de... Si c'est un réseau de choses collectives dont tout le monde profite. Alors, vous allez me dire, c'est pas dans la bonté de...
Ça n'a pas été fait pour les autres. Je fais quelque chose pour moi, il se trouve que l'autre en bénéficie aussi. Et que on pourra mettre des affiches interdites aux juifs et aux chiens, etc. Mais on ne les met pas tout le temps. Interdit aux musulmans, ou interdit à celui-ci ou celui-là, ou alors on peut aussi interdire, c'est-à-dire dire c'est pour nous, il faut être encore une fois c'est pas pour dire que nous maintenant on doit regarder systématiquement tout ce qui est fait comme étant sans aucun chesed. Peut-être que pour nous, ces choses, il y a même des choses qui apparaissent comme des choses de l'ordre du chesed. Parce que, quand ils se sont glorifiés, on a fait, ils voulaient dire, on a fait pour l'humanité. On a fait des ponts, on a fait des ceci ou cela, on a installé des foires. Donc ça a permis à des gens de faire rapidement les affaires qu'ils avaient à faire, on rassemble tout le monde, etc. Donc ça appartient, c'est un chesed. Les juifs, ils ont pu faire les affaires du trimestre ou du semestre en 10 jours ou en 15 jours. Après, ils vont pouvoir étudier. Donc ceux qui ont permis cela disent, ben voilà, nous on est quelque part les artisans de la possibilité qu'ont eu les juifs de se consacrer à l'étude. Parce qu'on dit, si les marchés avaient été faits dans cette optique-là, alors, vous auriez du droit, effectivement. Mais Hachem leur dit, non, vous, les marchés, donc les foires, vous les avez installées que pour y mettre des prostituées. C'est tout. Alors, c'est un peu frappant, quoi, mais c'est ce que la Gemara elle rapporte, c'est ce qu'Hachem dit au peuple.
C'est ce qui se passe dans les coups du monde.
Ça? Oui, c'est vrai.
Dans les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde.
Qu'est-ce que c'est? C'est des grands marchés pour les prostitutions.
Ça accompagne aussi. Ça accompagne.
Ouais. Le reste n'est pas beaucoup plus beau. Mais c'est...
Des arbitres sont aussi payés.
Donc, en fait, ce que dit Bilham ici, c'est la réalité. L'Oébit Avon de Yaakov, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que il fait comme si c'était un privilège d'Israël et que je ne peux rien faire. C'est que c'est ça la réalité du monde. Le monde a été créé comme cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à être mistakel le mal, à regarder le mal de tout près. Parce qu'il y a un certain niveau où le mal n'existe pas. Il est là seulement pour que le peuple d'Israël le vainque. Et ça ne marche pas tous les coups, on ne réussit pas tout le temps. Mais ce n'est pas fait pour... C'est pas une chose qui a une valeur en soi. Alors, Amar lo Balak, Oil ve'encha yachol liga bahen, mipne Moshe meshamshan, puisque tu ne peux rien faire contre eux, à cause de à cause de Moshe, qui est leur, enfin, qui est à leur service en réalité. Mais Shamshan, ça veut dire être au service d'eux. C'est la grande différence entre les rois dans la version courante et Moshe Rabbeinu. Ils sont aussi, les rois d'Israël sont normalement au service d'Israël. Et pas Israël au service des rois. C'est marqué que on a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ici, comme le lui dit son beau-père, Yitro, il lui dit, mais tu ne veux jamais tenir le coup, tu sièges pour juger les gens, pour régler leurs problèmes du matin au soir, du soir au matin. Il faut que tu te fasses aider. Mais en même temps, il y a un chazal qui dit qu'on a dit à Moshe Rabbeinu, ce que tu fais, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Shmuel, il fait mieux. Le Navi Shmuel, il fait mieux que toi. Pourquoi ? Parce que toi, les gens viennent chez toi et ils font la queue, ils attendent. Eux, ils doivent venir à toi. Shmuel, il était itinérant. Shmuel, il allait vers les gens. Il n'avait même pas besoin de se dépasser, les gens. Shmuel, il n'avait pas de maison, c'est une espèce, comme un escargot, qui avait sa maison, je crois, il avait un camping-car, je ne sais pas ce qu'il avait. En tout cas, il allait partout. Donc on n'avait pas besoin de venir chez lui, c'est lui qui allait. Il s'est présenté, c'est encore plus de kavod pour le cas d'Israël. Et Shmuel et Moshe Rabbeinu sont des rois. C'est des rois sans cour, mais c'est des rois. Alors, dans ce cas-là, Re'eze, Sheomed, Acharav, Maïe. Ok. Tant qu'il y a Moshe, on ne peut rien faire. Mais toi, essaye de voir qui va venir après lui. Qui sera son successeur? Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Derrière Moshe? Peut-être que lui, tu ne peux pas le toucher. Mais regarde derrière. Alors il lui a dit, donc en fait c'est Yoshua qui va venir derrière lui, derrière après Moshe. Amarlo afhu kashé kmoto. Il dit son successeur, il est aussi dur que, aussi terrible que lui. Utruat melech bo. Pourquoi? Parce que tokia umeria umapil choma. Celui qui vient après, il sonne du chauffard, enfin il sonne des trompettes. Et ça fait tomber les murailles.
Imagine, tu as remarqué, Balak qui dit, en fait, tu ne veux pas le maudire parce que c'est Moshe qui te protège. Mais avant, on n'avait pas parlé de Moshe, avant, on avait parlé de Dieu.
Oui, mais c'est, auparavant, en haut, il a parlé de. Avant, il a parlé de Moshe, je crois. Le marzou sur place, regardez le marzou, la colonne de gauche. Pipne Moshe Meshamshan. Il dit, Vizeu Hashem Elokav Imo, Hashem son Dieu est avec lui. Shekol Anagato, Shel Moshe, Shelo Kider Hateva, Rakbenissim Elokim. Moshe ici, ça vient pour dire, c'est celui à grâce auquel le clan Israël est dirigé de façon miraculeuse. Alors, Troat Melech Bo, Tokia Omeria, Mapil Choma. Il sonne et il envoie une teroua et ça fait tomber les murailles de Jéricho. Donc, tu vois qu'on est mal barré avec ces gens-là. Kel Motsiam mi Mitzrayim, le Dieu qui les fait sortir d'Égypte. C'est, tout ça, c'est les éléments de la prophétie de ce que dit Bilham. Et le Midrash l'interprète. Amar Tali, donc ça veut dire en fait quand il prophétise, enfin oui, il parle sur Israël, et en même temps, dans ce qu'il dit, il y a, en fait, il est en train de parler en même temps à Balak pour lui dire, mais tu vois bien que ça ne marche pas. Amar Tali, Am Yatsami Mitzrayim Me'atzman. Tu m'as présenté les choses comme s'il y avait un peuple qui était sorti de lui-même d'Égypte. Mais Atzman. Ve'enoken, mais c'est pas comme ça. Et la Huotziam, c'est Hachem qui les a fait sortir. Que toi faute re'em, kachumidato. Il a dit. Oui, oui. Il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça.
La photocopie, c'est pas le fond.
Elle n'est même pas ailleurs, hein. C'est même pas la graffeuse.
Moi, je ne peux pas vous
C'est pas une page qui manque, c'est deux.
Heureusement que c'était pas un commerce.
C'est pas seulement qui fait des photocopies.
Hein?
C'est pas seulement qui fait des photocopies.
Oui, quand je fais une bêtise, je la fais.
Donc ici, c'est que toi, faute, c'est la chaîne qui survole, qui surplombe. Rem, bon, c'est les animaux, en fait, ici. Kachumidato. Chatou kima, oridan keof. Et la mida, sa mida, la mida d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est même s'ils font une petite faute, Oridan Keof, alors le Yosef il dit, Pirouche, que chez Chotin ou Moridan, Rakima, Keof, Amaofef, Me'at, Minaharet. En vérité, quand ils fautent, Kadosh Baruch Hu, il les fait simplement, il les décale un peu vers le bas, comme des petits sauts d'une volaille qui ne vole pas vraiment, mais qui volette, en quelque sorte. Chez Neymar, Ephraim Kaof Itofef Kevodam. Donc, même quand il faute, Akadosh Baruch Hu ne laisse pas complètement tomber, on le décale un petit peu vers le bas. Zachou Maalan ou Meromemam Keav. Et au contraire, alors maintenant, si, quand ils font quelque chose de bien, alors. Hachem les élèves comme les nuages, quoi. Ils sont aussi hauts que les nuages. Je n'ai marre, mi ele kav teufena. Qui sont comme ceux-là, qui sont-ils ceux-là? Ils sont comme ils volent aussi haut que les nuages, quoi. En quelque sorte. Il dit, kilo nachash bi Yaakov, velo kesem bi Israël. Il n'y a pas, ça veut dire, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit contre Israël avec Nichush, avec la divination et, ou la magie. Il lui dit, Areat, Mechazer, ou Menachesh, ou Mekasem, Bilam dit à Balak, qui est un grand spécialiste, il dit, tu n'arrêtes pas d'essayer de mettre en marche des processus de divination et autres, magie. Mais ces processus, ils doivent s'accrocher à quelque chose. Il faut qu'il y ait une prise. Il n'offre aucune prise. Il n'y a pas de moyen de. כשהם צריכים להילחם בשונא, עומד כהן גדול ולובש אורים ותומים, ונשאל בקדוש ברוך הוא, וכל הגויים מקסמים נחשים. ואלו משמרים אותם בתשובה. Oui.
À ce moment-là, il ne parle pas ici, ce n'est pas prophétique, il ne parle pas du clan Israël dans son...
Non, il a des références historiques du clan ici, mais c'est la prophétie quand même, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les choses se modifient en fonction des époques, il y a beaucoup d'éléments qui sont rapportés ici, qui sont prophétiques, c'est-à-dire qui décrivent des situations qui vont advenir au clan Israël. Mais lui, il parle, il fait référence au passé. Il dit, je ne peux pas les maudire maintenant. Mais il lui a demandé de le maudire pour après, parce qu'il lui dit, lui, Bilam, il vit au temps de Moshe. Oui. Et alors Balak lui dit, bon, tant qu'il y a Moshe, tu ne peux rien faire, mais tu peux peut-être les maudire pour la suite, c'est-à-dire la génération de Yoshua, ceux qui vont entrer en Eretz Israël. Donc il parle bien d'un futur. Il dit, mais le futur, tu n'as qu'à regarder, ils vont faire tomber les murailles de Jéricho avec des trompettes.
Parle
du clan Israël, maintenant, enfin même dans toute son histoire, puisqu'il dit, tu m'as raconté qu'ils sont sortis tout seuls d'Égypte. Ils ne sont pas sortis d'Égypte tout seuls, c'est Hachem qui les a sortis.
Donc comment on peut dire des choses comme ça, quand on voit ce que les Israël ont fauté à travers les siècles, et surtout même très peu de temps après la prise des villes...
Mais lui, mais pas comme ça, ici, Bilam, quand il va échouer... Il va donner le grand conseil de la prostitution des filles de Moab.
Avant, il y avait le Vaudor.
Il y avait le Vaudor, mais il passe ça sous silence. Et finalement, Hachem, il ne les a pas détruits. Il aurait dû... Là, il les dégringole un petit peu. Il explique à Balak qu'on ne peut rien faire.
On ne peut pas détruire.
Indestructible le clan Israël. J'ai pas de prise. La magie n'a pas de prise. Rien n'a de prise sur eux. Parce que Hachem les protège tellement qu'on ne peut rien faire.
J'ai une question, peut-être vous en avez parlé avant et tout ça, mais pour recoller un peu les morceaux, pourquoi Balak veut que Bilam.
Parce qu'il a peur. Parce qu'il a vu que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont tous les peuples qui se sont opposés à eux, alors qu'en fait, ils demandaient « laisse-nous passer, on payera ce qu'il faut ». Les autres ont dit « vous ne passerez pas », ils sont opposés à eux, ils ont été balayés complètement. Et comme il a balayé Og Melach HaBashan, les Bnei Israël, ils ont balayé les puissants, lui il dit « moi je suis un petit roitelet de rien du tout, et je les vois arriver, c'est... » Pardon ?
À l'exception des dobles.
Oui. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que tous les peuples ici viennent avec toute leur artillerie, avec tout leur savoir-faire, magie et science, etc. Et les Bnei Israël, pourquoi ils sont attaqués, les Bnei Israël ? Parce qu'ils se sont mal conduits. Bon, mais quand la pression arrive, ils font tchouva, et du coup, rien n'a d'impact sur eux. Et donc ils se désolent. Même quand on trouve quelque chose à dire contre eux, finalement, ils font tchouva. Et quand ils font tchouva, alors finalement, on peut plus les attaquer. C'est marqué dans le pasouk, mais faire otot badim, ve kosmim yicholet. C'est-à-dire qu'en fait, ça annule complètement les signes de cette magie et de cette divination. Voilà, on va en rester là.
Du coup, ma fille.
Oui.
Je demande le question à vous faire. La fille est enceinte, ma fille. Ma fille est enceinte. Elle est un petit garçon. Quand on cherche à Noël, quand on cherche à Noël, qui serait bien au mois de juillet, à peu près. Vous connaissez quelqu'un?
Je connais Marie, mais je ne sais pas si c'est son nom en juillet.
C'est juste une seconde.
Vous demandez? Il faut que je. Je ne sais pas si on a adresse à dire, mais je vous la donnerai.
Je vais la chercher. Alors, maintenant, c'est pour les dates.
Ah, si.
La semaine prochaine, je ne serai pas ici.
Non, mais je vous en donnerai.
Et dans deux semaines, je serai.
C'est juillet, il y a encore le temps.
Oui, je vous en prie. Il y a deux choses. Il y a des buffets, il y a des buffets. Ouais, c'est facile.
Pardon?